psychos en colère, il y en a marre de la galère. Les psychos en colère, il y en a marre de la galère.
Bonjour pour ce nouveau numéro du magazine Rien à voir, nous serons à l'écoute de Karine, psychologue clinicienne en grève. Karine a répondu à l'appel national du 11 juin 2021 pour participer dans sa ville au rassemblement des psychologues devant le CHU de Nantes puis devant l'Agence régionale de santé en présence de militants militantes de la CGT et de FO. En quoi consiste votre profession ?
Alors, les psychologues, on a une formation de bac plus 5. On est formé au soutien à l'accompagnement de la souffrance psychique et on intervient en consultation, en libéral, en hospitalisation pour essayer d'évaluer dans un premier temps la souffrance psychique et de proposer un accompagnement de la détresse des personnes.
L'origine de la colère.
On ressent, nous, c'est qu'on essaye de nous encadrer davantage. Mais quand on est formé à Bac plus 5, quand on a un code de déontologie, quand on se forme en continu sur nos outils et sur nos méthodes de soins auprès des patients, on sait ce qu'on fait, en fait. Donc accueillir le patient, évaluer, leur proposer du soutien, c'est à nous d'évaluer en fait combien de temps ça va prendre. On n'a pas besoin d'avoir un espèce d'ordre de psychologue qui va définir combien de séances on va faire, si on doit s'occuper que de telle pathologie et moins des autres, quelles méthodes et quels outils on va utiliser. On n'a pas forcément besoin de recommandations pour ça. On se fait confiance, dans la rencontre avec le patient, on définit les choses, on voit les intentions de chacun, on voit comment ça se déroule, et ce sont des sciences humaines, la psychologie. Donc on ne peut pas ranger des gens dans des cases et avec un diagnostic, et tel diagnostic va donner tel soin, telle durée. On refuse ça. On est un petit peu à part, c'est-à-dire qu'on n'est pas une catégorie paramédicale, donc on n'intervient pas sur prescription médicale. On travaille, nous, à l'hôpital, là, en équipe pluridisciplinaire, donc c'est avec les équipes et avec le patient qu'on va, à la demande du patient, proposer un soutien. C'est ce qu'on appelle l'accès direct au psychologue. Et donc le fait de vouloir introduire une prescription médicale enlève cette place de côté que l'on a un petit peu, et cette place de côté, c'est la place du patient. Parce que quand il est pris déjà en charge par des médecins, par une équipe soignante, on travaille forcément avec, mais on a un petit pas de côté. C'est toute la place que va prendre le patient. On ne dépend pas du médecin, on ne dépend pas des décisions du médecin, de la position du médecin. On travaille tous ensemble. Donc c'est un petit peu ce qu'on décrit là, dans cette volonté, là, tout d'un coup, de remettre en question notre formation, notre manière de travailler, notre manière d'accueillir les patients en souffrance, enfin les citoyens en souffrance. Il y a quelque chose qui nous interpelle vraiment, on a vraiment l'impression d'être attaqué fortement là pour le coup.
Mais encore.
Ce qui est mis en avant là, c'est aussi la possibilité d'avoir des consultations psychologiques remboursées. Nous, on n'est pas contre l'accès direct au psychologue, ça on veut le maintenir, pas de prescription médicale. L'accès toujours direct, remboursé, l'accès gratuit aux soins de psychologues, ça existe déjà. Ça s'appelle l'hôpital public. En hospitalisation, on voit des psychologues. En CMP, au centre médico-psychologique, on peut aller de chez soi quand on n'est pas hospitalisé. Avoir des entretiens psychologiques, ça existe déjà, ça. Qu'on le rende gratuit en libéral, qu'on le rende gratuit ailleurs, il n'y a pas de souci. Ça sera remboursé par la Sécurité sociale. On n'a pas besoin d'avoir une prescription médicale, des séances dédiées qu'on impose le temps et qui sont remboursées. Il faut qu'on soit rentable en fait. Ils ont prévu de rembourser des séances de 30 minutes alors que vous pouvez faire le tour là des psychologues, des entretiens en 30 minutes. C'est pas ça, c'est notre travail en fait. Donc il y a une méconnaissance aussi de notre travail. On reçoit les gens trois quarts d'heure à une heure. On a bac plus 5, on va pas être payé 20 ou 30 euros la séance. Il y a un besoin en fait qu'on soit entendu, que peut-être qu'on explique davantage ou qu'on soit plus écouté dans notre manière de travailler. Et quelque chose de très important, c'est qu'on est aussi les oubliés du Ségur. On a donné beaucoup. Moi, j'ai travaillé dans les services Covid, au chevet du patient, au téléphone avec les familles qui ne pouvaient pas venir. Face aux endeuillés, il y a eu aussi des prises en charge qui étaient mises en place ici, organisées et coordonnées par les psychologues. On a vraiment été au front. Auprès des soignants qui ont beaucoup souffert, comment ça a été décidé que les psychologues ne pourraient pas bénéficier d'une revalorisation salariale comme les autres professions? On a tous bossé à fond. de la secrétaire à l'assistante sociale, aux psychologues, aux paramédicaux, on a tous bossé à fond. On n'a pas eu d'augmentation de salaire depuis des lustres. Ça aussi, on a beaucoup de raisons d'être en colère aujourd'hui et d'essayer effectivement de dire c'est très joli de proposer l'accès gratuit aux psychologues, mais en fait derrière ça, il y a autre chose. On ne considère pas, je pense, à la juste valeur de notre métier.
Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, mais je vais faire des questions complémentaires.
Ouais.
Pourquoi s'opposer à la création d'un ordre des psychologues ?
Le diplôme de psychologue, il est déjà hyper réglementé. Aller voir un psychothérapeute en libéral qui n'a pas le diplôme de psychologue, ça n'est pas la même chose. Mais déjà, le diplôme de psychologue qui est remis en question ici, c'est déjà un diplôme qui est hyper réglementé. La formation, elle est hyper réglementée. Le code de déontologie, il est posé. Quand on doit rendre des comptes auprès de la justice, on sait où nous trouver, on sait comment. Il est déjà hyper réglementé. On n'a pas besoin d'une tutelle supplémentaire. On est déjà hyper réglementé.
Mais les médecins aussi sont hyper réglementés. Ils sont pas plus simples.
Ouais, bien sûr. Mais quand ils reçoivent leurs patients, ils évaluent les choses, ils prennent leurs décisions, ils réévaluent avec le patient. On sait ce qu'on fait, nous aussi. Et on prend nos responsabilités dans tout ça. On n'est pas seul. C'est-à-dire que quand on estime que c'est pas de notre ressort ou un temps donné, il y a besoin d'une évaluation médicale, on oriente vers les évaluations auprès des psychiatres, on réoriente vers les médecins traitants. On est responsable, en fait. Déjà, je pense que vous pouvez interroger d'autres psychologues, on est déjà responsable, on sait déjà travailler dans ces conditions-là. Il ne me semble pas qu'il y ait besoin d'une réglementation supplémentaire sous prétexte qu'il existe plein de sortes de psychologues. Non, le titre de psychologue, il est déjà bien borné.
Je pensais qu'il fallait simplement être une plaque, le psychologue.
Non, psychologue, c'est un titre qui passe par un bac plus 5, qui passe par une formation universitaire. Donc on a un diplôme qui est reconnu. Et effectivement, vous avez raison de poser la question, parce que peut-être que d'autres personnes se posent cette question-là.
Quand j'ai vu sur les revendications plein d'ordres des psychologues, ça m'a interpellé.
D'accord.
Parce que je me suis dit, il y a un ordre des médecins, et cet ordre des médecins, il a bien une fonction. Et pourquoi les psychologues refusent ça? Mais je comprends que la question, c'est pas la même. C'est-à-dire que le médecin, lui, il a la liberté de choisir le traitement, le temps de consultation, etc. Et je viens de comprendre que vous ne l'avez pas.
Alors on l'a, mais on voudrait nous le retirer.
D'accord.
Aujourd'hui, la manière dont on fonctionne, à l'hôpital, donc c'est le service public, donc ce sont les impôts qui payent nos consultations, mais on travaille de cette manière-là. On reçoit la demande de patient, on évalue avec lui, on se propose des outils et des méthodes pour les accompagner, on réévalue au fil des séances, et c'est pas linéaire. Comme je disais, c'est quand même une science humaine, donc les gens peuvent varier aussi dans leurs humeurs, dans leur façon de s'adapter aux difficultés de leur quotidien. Et donc c'est avec eux qu'on travaille. On décide de stopper un suivi, on décide de le prolonger, on décide de reprendre plus tard, on décide de réorienter vers quelqu'un d'autre si ça ne correspond pas. On décide de ça aujourd'hui. Et demain, ce qu'on nous propose justement, c'est de perdre cette possibilité de décider avec le patient. C'est une histoire de rencontre quand même, quand on rencontre un psychologue. Dans le soutien, il faut se dévoiler, il faut un peu se dénuder. Et donc, il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une alliance. Et on décide des choses vraiment avec le patient. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et je ne comprendrais pas qu'on change ça. Je pense que ça amènerait même à ce qu'on prenne de moins en moins bien en charge les patients, puisqu'on nous donnerait, selon des recommandations, telle pathologie, c'est tant de temps, c'est tant de séances, telle méthode, tels outils. On a une diversité de possibilités de vous parler de différents psychologues, effectivement. On a différentes orientations, différentes formations, mais justement, si dans la rencontre, on voit qu'il y a un autre collègue qui, lui, par une technique ou par une formation, va pouvoir davantage aider le patient, on va appeler la collègue et on va réorienter. Et ça, c'est tout l'intérêt de le faire. Et si demain, le patient, on lui dit « c'est tel thérapeute, tel outil » et que ça ne correspond pas, bah, il ira où ? Enfin, il ne sera pas remboursé, il n'aura pas le droit d'avoir un accès direct au psychologue comme ça se fait aujourd'hui.
Quelle est la structure supérieure, entre guillemets, qui défend les psychologues ?
On a des syndicats qui peuvent soutenir les psychologues. On a les syndicats nationaux des psychologues qui nous informent des arrêtés. On a ce groupement-là, mais plus localement, pour en revenir à votre question, peut-être ça peut préciser les choses. Au sein de l'hôpital, ici, on est organisé en collège. C'est-à-dire qu'on va élire des secrétaires. On ne va pas avoir un chef des psychologues ici à l'hôpital de Nantes. On va élire plusieurs secrétaires. On va se réunir régulièrement pour parler des problématiques, des prises en charge, de la clinique. et on va être en interface avec nos directions, avec la direction générale, pour évoquer l'intérêt des patients, comment on souhaite avoir des projets, comment on souhaite être en lien, pour qu'il y ait effectivement toujours ce travail entre les professions. Donc nous, la structure à l'hôpital, c'est le collège des psychologues.
Combien de membres ?
Combien de psychologues ? On a 130 psychologues, mais il ne faut pas entendre ça comme des temps pleins. La difficulté aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est qu'on manque de personnel, on manque de postes, de création de postes, et les psychologues sont quasiment tous, une grande proportion à temps partiel. Donc on a 20% dans un service, 30% dans un autre, 50% dans un autre, et des psychologues qui peuvent avoir trois services différents. Donc on a des petits bouts. Dans les 130 psychologues qui travaillent aujourd'hui au centre hospitalier universitaire de Nantes, on n'est pas tout à temps plein. Donc on demande aussi évidemment une revalorisation salariale et la création de postes, parce qu'il y a des services de soins ici qui n'ont pas de psychologues, qui bénéficient de la psychiatrie de liaison, justement les psychologues qui vont se rendre dans les services où il n'y a pas de psychologues pour apporter quand même ce soutien aux patients, le travail de coordination et de lien avec les équipes sur les problématiques des patients qui se jouent, la détresse, les difficultés d'adaptation lors d'une hospitalisation. Ça, c'est les psychologues de psychiatrie de liaison qui vont dans les différents services où il n'y a pas de psychologue.
On minimise l'apport de la psychologie par rapport au traitement médical ?
Moi, je trouve pas. Je pense qu'ils ont vu l'intérêt, effectivement, quand dans certaines situations, justement, la psychologue, elle vient recueillir ce qui est en train de se jouer là pour le patient. Il y a un intérêt pour le patient, donc il y a forcément un intérêt pour la prise en charge. On n'est pas là pour les obliger à décider des choses ou aller dans le sens de ce qui a été décidé dans le service, mais on est là pour vérifier effectivement que l'adaptation, le jugement, le raisonnement est suffisant pour pouvoir prendre des décisions ou accepter des soins. On n'est pas là pour les obliger à consentir aux soins. Je pense qu'ils ont surtout vu l'intérêt qu'il y ait des psychologues dans les services. Là, la crise sanitaire a vraiment aussi, d'un point de vue national, ouvert les yeux sur le besoin de soutien psychologique, mais il est là depuis très longtemps. Donc là, il est mis en lumière. Et on a vu qu'on avait besoin de soutien pour les familles, pour les patients et pour les soignants. Mais en fait, on est là depuis longtemps déjà. Mais on n'est pas suffisant. Une goutte d'eau. Je n'ai pas les chiffres de nombre de patients qui sont reçus ici, mais 130 psychologues sur tous les sites du CHU, pas simplement Hôtel-Dieu. Des gouttes d'eau dans l'océan. Vraiment.
Vous avez combien d'années de pratique ?
Je suis diplômée depuis 2005. Donc je travaille en OCHU depuis 2005. Tout le monde constate qu'il y a d'énormes besoins et pas suffisamment effectivement de possibilités.
Quelles sont les pathologies qui remontent ?
Actuellement, je ne sais pas si on peut généraliser. En tout cas, ce qui nous a préoccupés et ce qui continue à nous préoccuper, c'est les conséquences du stress lié à la situation, au sentiment d'insécurité, ce qu'on appelle le psychotraumatisme, c'est les mécanismes qui suivent les états de stress importants. Comment là, la population va s'adapter à ça ? On va pouvoir effectivement trouver une forme de résilience à ces états de stress qui ont pu avoir lieu pendant cette période sanitaire. Et évidemment, pour nos patients qui ont eu le Covid, hospitalisés avec des angoisses de mort importantes. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir leur permettre aussi un suivi pour justement vérifier toutes ces capacités d'adaptation et accompagner pour donner du sens à ce qu'ils sont en train de vivre, les mécanismes du stress. Et là, on est assez vigilant à ça.
Ça suffit pas de dire vous êtes guéri pour que tout se passe bien.
Alors, l'intérêt, enfin en tout cas l'enjeu de la psychologie, c'est qu'effectivement, ils ont leur pathologie, ils sont pris en charge par l'équipe médicale pour une pathologie, et puis viennent s'imbriquer la façon dont on réagit à tous ces épisodes-là. Donc effectivement, le psychologique, on peut dire, madame, monsieur, fort heureusement, vous avez traversé la période du Covid, vous pouvez rentrer chez vous, et nous, on est vigilants à leur indiquer sur quoi eux doivent être vigilants ou s'autoriser à parler à leur médecin traitant de certaines troubles du sommeil, troubles de l'alimentation, troubles de l'attention, manque d'envie, élan vital, qui pourraient effectivement venir mettre en lumière une adaptation difficile à tous ces épisodes douloureux, là, somatiques.
Le sens de ma question, c'était simplement pour dire le simple fait d'être guéri ne va pas éliminer les symptômes.
Parfois, ça se passe comme ça. Le fait de sortir de l'hôpital, de retrouver son environnement habituel, vont se remettre en place des équilibres qui fonctionnent très bien. Et pour d'autres, c'est autre chose qui se met en place dans les semaines à suivre. Encore une fois, c'est des sciences humaines, quoi. C'est l'humain, donc on a tous nos façons de réagir aux événements. Mais effectivement, parfois, ils ne sortent pas complètement guéris.
Donc, il faut peut-être un suivi par la suite.
Voilà, quand ils sortent de l'hôpital, on veille à ça, à ce qu'il y ait la possibilité qu'ils aient des adresses pour aller dans les CMP ou en libéral pour pouvoir effectivement continuer à cheminer, à élaborer sur leurs émotions, sur leurs ressentis et veiller effectivement à ce qu'il y ait un abaissement de la détresse ou de l'inconfort ou de la souffrance psychique. Donc on les oriente. J'ai été formée à Nantes, j'ai fait un diplôme en psychopathologie, référé sur la parole, sur l'orientation psychanalytique. Ensuite après, plus la psychodynamie. Je me suis aussi formée en neurologie, aux aspects, tout ce qui est neurodégénératif, tout ce qui est thérapie cognitive. En fait, au cours de notre formation, on peut aussi décider d'aller au-delà de ce qu'on a reçu pendant ces 5 années à l'université. Et avec la possibilité, effectivement, moi, d'aller travailler dans différents services, j'ai ouvert aussi, en fonction des pathologies ou de ce que je rencontrais dans ma clinique de tous les jours, je me suis formée à d'autres outils, d'autres méthodes. Et aujourd'hui, quand je rencontre un patient, je vais piocher dans toutes ces expériences-là ou toutes ces formations où, effectivement, quand je travaillais en neurologie, je n'avais pas forcément de psychotrauma lié à un accident de voiture. Donc depuis, je me suis formée au psychotrauma pour qu'aujourd'hui, quand je reçois un patient, si j'estime que j'ai les outils pour l'accompagner, je l'accompagne. Et si je n'ai pas les outils, je l'oriente vers une collègue qui, elle, a été formée à cette clinique-là.
Qu'est-ce qu'on appelle outils ? Pour moi, la base, c'est l'entretien. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Il peut y avoir des grilles d'évaluation, il peut y avoir des tests, il peut y avoir... Je suis sûre que je vais oublier plein de choses, mais il y a la parole. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ?
C'est pas facile de parler de son métier.
Je peux parler du mien, mais mes outils, oui, mais les autres...
Quels sont vos outils ?
La parole.
La parole ?
Oui, essentiellement. Essentiellement, ouais. La compréhension du psychisme humain, hein, c'est ce qui m'a intéressée, comment on fonctionne et comment parfois on dysfonctionne.
Il n'y a pas un gros investissement au niveau matériel, c'est la parole. Quand c'est de l'humour, on pète.
Alors, en même temps, ça touche à une question fondamentale qui est que parfois, on n'a pas de bureau. Parfois, certains psychologues ne peuvent pas recevoir leurs patients parce qu'ils n'ont pas de bureau, ou ils ont des bureaux partagés, ou on leur propose des conditions pas toujours hyper chouettes.
Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette idée de tri et puis deuxièmement par rapport au privé ?
Le fait effectivement de définir selon telle pathologie, selon telle souffrance, ce sera tel outil, tel temps vers tel psychologue, ça permet de trier, soi-disant. Selon une évaluation, ça permet de trier et d'orienter vers le libéral. Mais en fait, on n'est pas forcément contre ça. Ce qui risque de se passer, c'est que les patients n'auront pas le choix. Et aujourd'hui, ils l'ont le choix. Donc, on ne peut pas trier les gens, on ne peut pas les catégoriser, on ne peut pas les mettre dans des cases. Donc rembourser les séances pour des psychologues en libéral, d'accord, si c'est la sécurité sociale qui rembourse et si le psychologue reste dans son choix de la durée de la prise en charge et de la méthode utilisée et du temps de la séance.
Les chèques adressés aux étudiants n'étaient pas forcément pour.
Il faut savoir au bout du compte, la psychologue, combien elle va être rémunérée pour cette séance-là, qui n'est pas forcément le prix de la séance habituelle. Donc on ne peut pas forcément non plus abaisser. Il faudrait interroger ma collègue en libéral.
Ce n'est pas le fait du chèque, c'est le fait du montant du chèque, c'est ça ?
Nous, on n'est pas contre l'accès gratuit aux psychologues, à condition que ce soit la sécurité sociale qui prenne le relais. Après, il y a autre chose qui me vient en tête par rapport à votre histoire de tri. Un des projets qui est en cours, effectivement, c'est qu'un patient rencontre le parcours du combattant. Il va chez son médecin traitant. Le médecin traitant évalue la souffrance psychologique et détermine et prescrit 5 séances chez un psychologue. Le patient va chez le psychologue, au bout de ces 5 séances, il revient chez son médecin traitant qui va réévaluer si... Alors nous, on dit est-ce qu'il est guéri au bout de 5 séances d'une demi-heure, il évalue ça. Il renvoie le patient vers un médecin psychiatre qui va de nouveau réévaluer et qui va peut-être prescrire 2 nouvelles séances. Mais actuellement, le médecin traitant, il oriente vers un psychologue. Et dans la rencontre avec le psychologue, le patient décide, avec son thérapeute, la durée de la prise en charge. Là, vous imaginez le parcours du combattant pour un patient qui doit faire combien de consultations médicales pour arriver à avoir le droit de voir un psychologue, sous prétexte que sa prise en charge sera remboursée.
Donc l'argument de faire des économies n'est pas le bon.
On n'est pas rentable. Ça, c'est sûr, on n'est pas rentable. Je pense que c'est pas de cette manière-là qu'on va soutenir et aider psychologiquement les citoyens en leur faisant miroiter des consultations gratuites avec des psychologues qui peut-être en libéral pourront pas accepter ce genre de... parce qu'elles seront pas suffisamment payées et elles seront contraintes dans leur manière de travailler, ce qui est pas non plus ce qui se passe actuellement.
Et vous, psychologiquement, comment ça va?
Bien écoutez, franchement, on est à la lecture de tous ces arrêtés, de tous ces projets, on est malmené. Vraiment, on est malmené. C'est ce qu'on décrit toutes là. On est sidéré par comment on se représente la manière dont on travaille. Il y a une méconnaissance de notre travail, de notre fonction, de la manière dont on travaille. Et on n'est pas valorisé, on n'est pas soutenu. Donc franchement, là, on est... c'est bateau de dire on est en colère. En tout cas, on veut, par cet intermédiaire-là, réexpliquer comment on travaille, ce que c'est que notre travail et pourquoi on s'y oppose aujourd'hui. C'est hyper important pour nous de faire cette démarche-là. Et une grève nationale de psychologues, bon, je travaille que depuis 2005, mais je n'avais pas connu.
On n'est pas proche du burn-out.
On n'est pas proche du burn-out, bah écoutez,
non, c'est
on prend soin de nous. On prend soin de nous et on sait se faire aider.
Le soutien des syndicats CGT et FO.
Les psychologues syndiqués, il ne doit pas y en avoir des masses.
Ah non, pas trop, non. On n'a pas énormément de psychologues syndiqués actuellement, parce que je pense que c'est une profession où ils sont réunis aussi autour d'un collège des psychologues. Ils sont bien unis par un sein. Mais ils sont venus vers nous, là, sur la mobilisation. Il y a eu de très bons échanges. Et puis voilà, donc ça se passe très bien entre les psychologues et les syndicats, notamment avec notre syndicat CGT. Voilà, les échanges ont été très intéressants.
Vous n'êtes pas psychologue ?
Non, moi je suis infirmière dans un service de psychiatrie. Forcément, je travaille avec des psychologues. Les psychologues sont très importants dans les équipes. Et ils ont besoin d'être reconnus, je pense. Ils ont été beaucoup, beaucoup sollicités pendant la crise sanitaire. La direction les a sollicités, hein, ils ont répondu présents. Là, il y a de plus en plus de demandes de patients, de consultations. On a plus de demandes avec la crise sanitaire. Les patients ont été mis à mal, en fait. Et il y a vraiment de plus de besoins. Et on a besoin de nos psychologues. Et on a besoin qu'ils gardent l'autonomie qu'ils ont actuellement. Et que là, tous les projets qui sont actuellement proposés au niveau national, c'est pas possible. Les psychologues, il faut qu'ils gardent leur autonomie, leur indépendance, c'est très important pour le lien avec les patients, puis aussi avec les professionnels.
Les manifestations de psychologues, il n'y en a pas eu des tonnes.
Ah bah ça, c'est vrai que les psychologues, là c'est vraiment une très très belle mobilisation des psychologues aujourd'hui. Et puis on voit bien qu'ils ont à cœur d'être là aujourd'hui, ils échangent entre eux, on voit bien là, ils sont tellement attaqués dans leur profession que là, urgent de se mobiliser. Voilà, ils se sont bien réunis, voilà, il y a une force là, il y a une force entre eux. Donc voilà, il faut que ça serve pour qu'ils obtiennent satisfaction à leurs revendications en fait.
Et le soutien des syndicats, c'est un plus
en fait. Ah bah forcément, le soutien des syndicats est forcément un plus parce que nous, on relaie leurs revendications aussi, nous au sein des instances. Après au niveau national, ça va être au sein des ministères, au sein du gouvernement et tout ça. Donc c'est important qu'il y ait un lien avec les organisations syndicales. Et puis le syndicat CGT prend toute sa part.
Merci à Karine, psychologue clinicienne au CHU de Nantes. Merci à la militante CGT pour s'être librement exprimée au cours de ce programme.